passé à Bangui. Il pleure là, il veut un correspondant. Parce qu'il dit que Filman ne travaille pas bien. Qui ça? Les sangos, je leur ai dit de venir chez toi. Tu vas pleurer dans mes oreilles, moi je ne sais rien. Qui travaille pas bien? Là, ils disent que. Quel est ce qui dit que Filman, comment il s'appelle? Filman.
Il ne s'appelle pas Filman, lui, il s'appelle Steve.
Non, Filman, c'est qui là?
Ah, ok. Il travaille pas?
Là, ils disent qu'il ne bosse pas bien. Et ils sont pour le commun. Moi, je leur ai dit de venir pleurer dans ses oreilles, franchement. Moi, je ne peux rien faire pour lui.
C'est-à-dire, Dédi.
Thank you.
Des Émirats arabes unis au large des côtes de l'émirat de Fajoura alors qu'ils étaient sur le point de pénétrer dans le golfe d'Arabie, selon les déclarations du ministre saoudien de l'énergie. Les Émirats n'ont pas identifié les auteurs, mais parlent d'un événement grave. L'Arabie saoudite et les Émirats sont deux proches alliés des États-Unis qui viennent de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient pour contrer l'Iran. Face à ces incidents, Washington a réagi. On va voir ce qui va se passer avec l'Iran, a lancé le président Trump. S'ils font quelque chose, ils vont souffrir énormément, a-t-il averti, sans plus de précision. Dans la soirée de lundi, le New York Times a rapporté que le ministre américain de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, avait présenté la semaine dernière, lors d'une réunion avec des conseillers à la sécurité nationale de M. Trump, un plan selon lequel jusqu'à 120 000 hommes pourraient être envoyés au Moyen-Orient si l'Iran attaquait des forces américaines. Aucun lien n'a officiellement été fait entre ces incidents maritimes et les projets d'attaque imminentes imputés depuis la semaine dernière par Washington à Téhéran.
Les États-Unis concluront un nouvel accord commercial avec la Chine lorsque le moment s'y prêtera, mais pas avant que Washington ne parvienne à réduire le déficit commercial avec Pékin, chiffré à 419 milliards l'année dernière, a fait savoir le président Donald Trump. Lionel Gaïma.
La Chine nous achète nettement moins de biens que nous n'en achetons d'elle, a écrit le chef de l'exécutif américain dans un tweet, alors que le bras de fer commercial se poursuit avec la Chine. Un autre tweet du président des États-Unis assure le président chinois Xi Jinping d'une amitié et d'un respect illimités, mais souligne qu'il faut un bon accord pour les États-Unis ou alors cela n'aurait aucun sens. Les États-Unis doivent pouvoir regagner le terrain perdu au profit de la Chine, a insisté le président Donald Trump. Après 2 mois de négociations commerciales, les États-Unis et la Chine n'ont pas été à même de s'entendre sur un accord vendredi ici à Washington. Pour le président Trump, Washington est maintenant en meilleure position que par le passé. Il a défendu sa décision d'imposer des droits de douane sur 200 milliards de dollars de biens chinois, une décision à laquelle la Chine a répliqué en frappant de droits de douane 60 milliards d'exportations américaines.
Voilà, et puis voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Au Mali, les cheminots ont repris hier le travail après presque 5 mois d'arrêt avec un mouvement de grève de la faim pour le paiement de nombreux mois d'arriérés de salaire qu'ils vont finalement recevoir. Près de 500 cheminots sont concernés. L'État malien s'est engagé à relancer les activités et à acheter de nouvelles locomotives. La voie ferrée Bamako-Dakar revêt une importance vitale pour les échanges de ce pays enclavé. Le Gabon a récupéré 200 conteneurs sur les 353 disparus contenant le Kévasingo, un bois rare protégé. Le procureur général Olivier Nzaou a déclaré que 71 des conteneurs manquants ont été retrouvés dans les locaux du port de la société Sotrasgab, immatriculée au Cameroun, et 129 sur la propriété de la société Owendo Container Terminal. 153 conteneurs sont toujours portés disparus. Déjà, deux Chinois sont détenus dans le cadre de cette affaire. Les conteneurs de bois de Kevasingo, abattus illégalement et coûtant près de 250 millions de dollars, avaient été saisis au port d'Owendo de Libreville fin février, début mars. Terminons avec Microsoft qui investira 100 millions de dollars pour ouvrir un centre de développement technologique en Afrique avec des sites au Kenya et au Nigeria dans les 5 prochaines années. La société engagera plus de 100 ingénieurs locaux pour travailler dans les deux pays afin de personnaliser ses applications pour le marché africain et d'en développer de nouvelles pour le continent et au-delà.
Et on enchaîne sur les sports avec Bagassi et Koura. Soupçons sur un match de foot algérien, 7 parieurs arrêtés en France.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous. Des arrestations effectuées dans l'est de la France dans une enquête sur des soupçons de matchs arrangés en Algérie, impliquant notamment l'un des plus grands clubs du pays, l'ES Sétif. La rencontre qui comptait pour le championnat d'Algérie le 12 mai 2018 s'était soldée par une victoire 3-2 du DRB Taguinanet contre l'ES Sétif. Sur les 5 buts, 3 avaient été inscrits sur pénalty d'après des sources proches du dossier. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Nancy à cause de paris en ligne suspects enregistrés dans la région, notamment autour de Metz. L'AS Sétif est l'un des clubs les plus titrés d'Algérie avec 8 titres de championnat national et 2 ligues des champions d'Afrique.
Le football, John Obi Mikel, candidat en retour avec le Nigeria pour la CAN 2019.
Oui, le milieu de terrain est candidat à un retour dans l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet au Caire, a annoncé un membre de l'encadrement des Super Eagles. Mikel s'est entretenu avec le coach Gern Horror en Angleterre et lui a confirmé qu'il sera opérationnel pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, a déclaré lundi un officiel de la sélection nigériane à propos de l'ancien joueur de Chelsea de retour cette année en Angleterre à Middlesbrough après 2 ans en Chine. Obi Mikel, âgé de 32 ans avec 85 sélections, n'a plus porté de maillot des Super Eagles depuis le Mondial 2018 l'été dernier en Russie.
L'UEFA devrait recommander l'exclusion de Manchester City de la C1.
Oui, c'est une affirmation du New York Times qui rapporte que l'UEFA devrait recommander l'exclusion de Manchester City de la Ligue des Champions en raison de violations des règles du fair play financier par le club. Selon le quotidien américain, l'UEFA veut exclure pour une saison les doubles champions d'Angleterre en titre de la principale épreuve européenne qui n'ont jamais remporté. La décision de l'UEFA pourrait être annoncée dès cette semaine, indique le journal américain. City a réagi, estimant que cette information émane d'individus souhaitant nuire au club. Merci Morgan.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Abdourahmane Diaye et Morgane Guerrier, que vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
La situation sécuritaire s'est beaucoup détériorée ces derniers mois au Burkina Faso. Les attaques armées se sont multipliées dans le nord du pays. Et fait nouveau, en l'espace de quelques semaines, 2 églises ont été la cible d'hommes armés faisant 12 morts. Dans une interview accordée à VOA Afrique, Siméon Sawadogo, le ministre burkinabé de l'administration territoriale, explique que les forces de sécurité ne sont pas intervenues afin d'éviter une hécatombe. Au micro de notre correspondant Lamine Traoré, le ministre Sawadogo.
Bonjour Siméon Sawadogo.
Bonjour.
Les événements de Dablo se sont déroulés dimanche. Les 6 personnes ont été inhumées lundi. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces événements?
Nous faisons face au Burkina Faso d'attaques terroristes tout azimut dans cette zone-là, particulièrement dans ces derniers temps, sur donc des églises, sur des mosquées, contre la religion, si on peut ainsi résumer. C'est suite à l'échec tout justement de ces terroristes d'opposer les communautés entre elles à travers les assassinats des responsables coutumiers, des responsables des personnes ressources, et toute cette pratique consistait à soulever les communautés entre elles. nous avons pu faire en sorte que ces communautés-là continuent à vivre ensemble. Après cet échec-là, nous avons perçu que les terroristes ont jeté leur dévolu sur la religion maintenant.
Vous êtes en train de dire que les terroristes sont en train de changer de tactique.
Oui, ils sont en train de changer de tactique parce que l'idée consiste à mettre à mal le vivre ensemble entre les communautés.
Monsieur le ministre, quand on voit les événements de Dablo, on se demande comment cela a pu bien se passer parce que les terroristes sont venus une quarantaine et ont fait irruption dans cette église.
C'est ça le problème, c'est ça le terrorisme. Le terrorisme, même si vous l'avez un, vous imaginez même quelqu'un qui va dans un marché, il est seul et il tire un fusil. Vous allez voir de la panique que cela va créer. Donc c'est ça le terrorisme. C'est vrai, c'est important, environ une quarantaine de personnes à Dablo qui font irruption dans une église et qui rapidement donc prennent en otage les personnes, les femmes notamment, donc en leur demandant de se convertir, etc. Donc à leur religion à eux, et puis qui assassinent le prêtre et puis 5 personnes. C'est traumatisant. C'est pas que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Il faut vous imaginer, si vous avez 40 personnes qui tiennent en laisse une population importante dans une église, c'est quel genre d'intervention vous pouvez faire à ce moment-là?
Oui, les forces de sécurité étaient là, monsieur le ministre.
Non, on est ici, moi. S'il n'y a pas eu une stratégie qui consistait à faire attention, on pouvait, en les attaquant là-bas, qu'ils fassent un massacre de près de 60 à 100 personnes. Quand les gens là disent que non, il n'y a pas eu d'intervention, une intervention sert à empêcher quelque chose, mais pas à aggraver une chose. Je pense que sur le plan tactique, sur le plan sécuritaire, les plus chauds pourront revenir sur ce dossier-là. Mais je pense que ce qui s'est passé était le moindre mal.
Il y a une gendarmerie, il y a une police, et qu'il n'y a pas eu d'intervention.
Vous voulez qu'ils interviennent dans une église qui a été enfermée, avec des djihadistes à l'intérieur, avec une population nombreuse, vous voulez qu'ils interviennent comment? Sur la question sécuritaire, les spécialistes reviendront là-dessus. Mais je pense que ce qui s'est passé là, c'est certainement un comportement qui nous a permis d'éviter une hécatombe.
Merci, Siméon Sawadogo.
Merci.
Voilà, c'était Siméon Sawadogo, ministre burkinabé de l'administration territoriale, au micro de Lamine Traoré.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Amnesty International s'inquiète de la répression qui a suivi les élections législatives du 28 avril au Bénin. Une répression, écrit l'organisation dans un communiqué, qui a atteint des proportions inquiétantes avec 4 morts lors des manifestations post-électorales. Écoutez, Kine Fatim Diop, chargée de programme Afrique de l'Ouest à Amnesty International, elle est interrogée par Bagasikura.
Amnesty a documenté au moins 4 morts par balle depuis le jour des élections législatives qui se sont tenues le 28 avril au Bénin, sans l'opposition. Parmi ces personnes décédées, on compte une mère de famille qui est décédée le 2 mai suite à des blessures par balle, ainsi qu'un jeune garçon âgé de 19 ans, qui était un apprenti soudeur, qui est décédé dans la ville de Kandy le 2 mai également. Ici, a pu documenter également le cas de plusieurs blessés. Et pour nous, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les familles donc, qui ont perdu leurs proches face à des obstacles administratifs pour récupérer les corps de leurs victimes.
Oui, à l'époque, l'opposition avait parlé de tirs à balles réelles. Est-ce que c'est aussi votre constat?
Oui, alors les cas que Amnesty International a pu documenter, c'est des personnes qui sont décédées suite à des tirs par balles réelles. Pour nous, c'est vraiment inquiétant. L'usage excessif de la force est vraiment contraire à l'exercice du droit de manifester, tel que reconnu par à la fois la constitution béninoise, mais également le droit international.
Est-ce que vous savez s'il y a des enquêtes en cours?
Alors, on n'a pas encore la réponse officielle des autorités. On sait que le ministre de l'Intérieur avait réagi au niveau d'une radio internationale pour dire qu'il y a eu usage d'armes à feu et que des enquêtes seront menées. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'actes concrets de la part des autorités béninoises dans ce sens-là. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce stade-là, des blessés sont inquiétés, des blessés sont harcelés, mais aussi des activistes politiques sont arrêtés. C'est le cas de Habib Ahandassi, un étudiant web activiste qui a été arrêté jeudi dernier et à qui on reproche d'avoir participé à une manifestation non armée, alors que lui-même déclare n'avoir pas participé à cette manifestation du 1er et 2 mai.
Alors, on imagine que ça vous surprend, hein, parce que le Bénin a toujours été présenté comme un exemple démocratique dans la sous-région.
Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes par rapport au Bénin, qui a été montré longtemps comme un exemple en termes de démocratie. Mais ce que nous voyons récemment, c'est vraiment un recul en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de réunion pacifique. Je pense qu'il est, temps que les autorités béninoises mettent fin à disons, tout ce processus de nier les droits des citoyens béninois et les laisser manifester de manière pacifique, librement.
Kine Fatim Diop d'Amnesty International, jointe à Dakar.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Au Yémen, 4 années de guerre civile dévastatrice pèsent lourdement sur les femmes et les jeunes filles. Beaucoup sont veuves et doivent subvenir seules aux besoins de leur famille. Dans un village reculé du désert, l'ONG américaine International Rescue Committee a créé un centre de formation et d'autonomisation des femmes et des filles vulnérables. Un reportage de Néa Wadekar, récit Raïssa Girondin.
Abdulwazi, mère de 5 filles, a fui les combats dans son village natal de Ras Amran. Et comme de nombreux hommes yéménites ont perdu leur source de revenus, et certains même leur vie, les femmes et les jeunes filles se retrouvent sur un territoire inconnu en tant que principal soutien de la famille. Abdulwazi et ses filles apprennent donc de nouvelles compétences.
Nous sommes en train d'apprendre pour sortir de la pauvreté et aider nos familles. Regardez-moi, mon mari est malade, alors mes filles et moi, nous prenons la relève.
Abdulwasi et ses filles assistent au cours du centre Al-Bourika, créé par l'International Rescue Committee pour autonomiser les femmes yéménites. Les travailleurs sociaux du centre disent qu'environ 50 femmes et jeunes filles sont formées chaque jour où y passent tout simplement du temps, comme l'explique Fayrouz Yassine.
Dans cette région, elles sont très traditionnelles. Les femmes ne sortent pas parce qu'elles ne veulent pas se mêler aux hommes. Si elles vont dans d'autres endroits pour apprendre, comme Sheikh, Aden ou Karater, elles doivent prendre les transports en commun. Mais elles ont leur mari à la maison qui leur interdit de quitter les lieux.
Pour des femmes comme Abdulwasi, c'est aussi l'occasion de se libérer des normes culturelles conservatrices du Yémen et d'entrer enfin sur le marché du travail.
Avant, les femmes étaient oubliées, mais quand ces organisations sont venues, à cause de la guerre, nous avons pu développer et améliorer nos compétences.
Le centre fournit également des conseils sur les problèmes et les abus liés au genre qui, selon les enquêteurs, ont fortement augmenté avec les combats dans le pays.
Nous avons constaté qu'à cause des pressions auxquelles certains hommes sont confrontés, ils commencent à se livrer à la violence domestique. Les hommes dissipent toute leur colère sur leurs femmes.
Le centre est déjà en train de changer la dynamique entre les sexes dans la communauté. Abdulwasi dit que son mari la soutient dans son projet d'ouvrir un jour son propre atelier de couture et de le gérer avec ses filles.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est Koffi Olomide, l'homme de la rue.
C'est avec Koffi Olomide donc qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi cette édition mise en onde par Joselle Morissin. À la console, il y avait Citrac Franklin. Présentation, Abdourahman Dia, Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.